Évidemment, en ce moment, toute l'actualité est tournée vers l'Ukraine, et c'est bien naturel. On pense évidemment beaucoup aux familles là-bas. Mais en France, on a une élection présidentielle qui arrive, et l'un des thèmes majeurs de cette campagne a été la sécurité. De mon côté, je ne suis pas certain que ce soit le thème le plus important. Vous le savez, je pense que l'écologie a une importance bien plus majeure. Mais quand on parle de sécurité, on est obligé de penser au djihadisme. Et le djihadisme, il a une réalité en France et de manière plus générale en Europe. C'est un problème central dont il faut parler. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois Hugo Micheron, qui est un enseignant-chercheur à l'université de Princeton aux États-Unis et à Sciences Po. Et avec lui, on va se poser la question de l'histoire du djihadisme en Europe, comment il s'est construit, mais aussi quel est son avenir. Essayer de comprendre la différence, évidemment, entre la religion, l'islam et le djihadisme, mais de manière plus approfondie, de vraiment poser les termes du débat de manière intelligente. Donc de ne pas ignorer la problématique du djihadisme, mais pas non plus de confondre musulmans, par exemple, et djihadisme, ou migrants et djihadisme. C'est une conversation qui est extrêmement importante en réalité. Vous aviez déjà adoré le premier épisode, je le sais, donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Ça fait plaisir de te parler à nouveau. On avait déjà fait un épisode sur le djihadisme. La première question qui me vient naturellement, c'est pourquoi tu publies une nouvelle note aujourd'hui? Qu'est-ce qui a Explique, est-ce qu'il y a des raisons particulières pour publier cette nouvelle note?
Salut Greg, merci hein, de me recevoir, c'est un plaisir. Bonjour à toutes et à tous. En fait, donc je publie ce petit tract dans la collection. Donc c'est un petit feuillet de 60 pages chez Gallimard dans la collection Tract sur le djihadisme européen. Et le but, c'est une sorte de note d'étape de mes recherches que j'entreprends depuis 2 ans à l'université de Princeton sur l'histoire du djihadisme européen. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a pas d'histoire du djihadisme européen qui a été écrite et publiée. Et c'est particulièrement surprenant sur un sujet qui est vraiment régulièrement dans l'actu, qui concerne quasiment la totalité des pays européens, qui a des répercussions politiques extrêmement importantes. Quand on se plonge un peu sur l'étude du phénomène et la bibliographie, quoi. Il y a des livres sur Al-Qaïda en Europe, sur les attentats en Espagne, sur tout un tas de sujets, mais à proprement parler, une histoire du djihadisme européen, on n'en a pas. Et donc du coup, j'ai un peu utilisé aussi le temps qu'on avait à disposition pendant le Covid, où finalement le terrain n'était pas possible, à part le terrain virtuel, pour me plonger dans les immenses ressources à ma disposition à la bibliothèque de Princeton. Et en puisant donc dans les sources secondaires, j'ai fini par sortir un certain nombre d'éléments qui permettaient de mettre les échafaudages ou les premières fondations de cette histoire du djihadisme européen. Et puis là, depuis plusieurs mois maintenant que le terrain rouvre, j'ai l'occasion de faire des entretiens un peu partout en Europe sur le sujet, et donc de venir combler, de construire l'édifice. Et on va dire que ce tract en 60 pages, c'est un condensé de ce qu'on peut comprendre de l'étude de l'histoire du djihadisme européen.
Et ce que j'ai découvert à la lecture, c'est qu'il y a une vraie différence qui se fait entre les pays. En particulier, alors il y a cette phrase que tu reprends qui dit le Danemark ne produit pas de djihadistes qui se révèle fausse. Mais par contre, il y a un pays comme l'Italie qui en produit assez peu finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différences? Parce qu'en France, par exemple, il y a une grosse population, en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça se construit, tout ça?
Bien sûr. En fait, ce qui est assez intéressant quand on regarde les débats dans les différents pays européens qui sont touchés par le djihadisme, c'est que chaque pays pense que c'est lié à ses spécificités. C'est-à-dire, on va en France, pour tous les Français qui nous écoutent, les Françaises et les Français, spontanément, on va dire, bah oui, c'est à cause de la colonisation, éventuellement tout le débat qui va porter autour de la laïcité, inclusive ou exclusive. Ça va être aussi, on va regarder du côté du racisme, des discriminations, de la question des banlieues, etc. Mais en Angleterre, finalement, les débats portent sur ce qu'ils appellent le communalisme, c'est-à-dire le système plus communautaire britannique, sur un certain nombre d'éléments, mais vraiment propres aux British. En Allemagne, pareil, la question va porter sur la question de l'intégration. l'intégration des populations d'origine turque. Au Danemark, où il n'y a pas d'histoire coloniale, le débat porte sur l'identité danoise. Qui serait... Et en fait, on voit que chacun reformule, selon son propre prisme, des éléments explicatifs. Mais quand on regarde la réalité du phénomène djihadiste, on se rend compte qu'elle est la même dans ces différents pays, ce sur quoi on va revenir, j'imagine, dans un instant, indépendamment des spécificités de chaque pays. Donc, moi, c'était le point de départ. Donc, en fait, j'ai commencé simplement par me dire, OK, c'est quoi les chiffres ? Et c'est idiot, mais c'est quand même un point de départ qui est souvent oublié dans le débat public. Donc, en fait, ça donne la chose suivante. Si on utilise les départs pour la Syrie et l'Irak au moment du pic de Daesh, donc, si vous voulez, autour de 2014-2015, comme un bon indicateur, on va se rendre compte qu'il y a à peu près 6000 Européens, et donc j'inclus encore le Royaume-Uni dans l'UE, puisqu'ils y étaient encore, c'était avant le Brexit, et donc on a 6000 Européens qui ont rejoint Daesh, en fait. Sur ces 6000, on en a près de 90% qui sont originaires de 7 pays. Et ces pays sont quasiment tous, ce sont tous des pays d'Europe du Nord-Ouest. Donc par volume, on a d'abord la France, qui a ses 2000 de ces 6000 Européens, ensuite le Royaume-Uni et l'Allemagne, 1000 chacun. Ensuite, on a la Belgique, entre 500 et 600. Après, on a les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, et on peut rajouter aussi l'Espagne. Là, donc tout ça, c'est à peu près 6000. C'est important déjà de comprendre qu'il y a ce phénomène de concentration en Europe du Nord-Ouest. Et effectivement, l'Italie, dans ce schéma général, est assez peu représentée. Au total, on a un peu plus d'une centaine d'individus qui étaient résidents en Italie, qui ont rejoint Daesh. Donc, c'est déjà, par exemple, près de deux fois moins que la Suède, alors que la population italienne est beaucoup plus grosse. Mmh. Et puis, si on prend vraiment que ceux qui ont la nationalité italienne, alors là, je crois qu'on tombe à une petite dizaine. Donc, en fait, l'exception, elle n'est pas française, l'exception, elle n'est pas danoise, elle n'est pas britannique, comme tous les débats publics finissent par le penser ou par le faire croire. L'exception, s'il y en a une en Europe, elle est italienne. Et ça, j'ai pas encore tous les éléments, j'ai des hypothèses, mais j'ai pas tous les éléments pour l'expliquer. J'ai plus d'éléments pour expliquer la situation dans les autres pays.
Et ce que tu décris, c'est aussi que le développement, il n'est pas exogène, il est endogène. Ouais. Ça, c'est un point hyper intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre.
Oui, encore une fois, dans tous ces débats, il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il faut casser pour justement rentrer dans le concret du sujet et s'attaquer, j'ai envie de dire, à la sève de l'explication, toucher la sève de l'explication. Ben, le premier élément, c'est qu'on a tendance à penser que le djihadisme, c'est un phénomène qui est extérieur à l'Europe. C'est-à-dire que ça a été, donc typiquement, ça donne sa traduction dans le débat public porté par l'extrême droite, c'est le djihadisme, c'est les migrants. Ou le djihadisme, c'est des étrangers qui viennent répandre la haine, etc. La réalité, c'est qu'en fait, plus ou moins depuis 2001, en fait, depuis le 11 septembre, il y a un mouvement qui s'est développé en Europe et qui a été porté par des Européens. Et c'est toute la spécificité de l'Europe, c'est que désormais, les têtes de gondole djihadistes, les idéologues, etc., sont des individus qui sont nés, qui ont grandi en Europe, qui ont été socialisés en Europe. Et effectivement, le phénomène, de fait, est endogène. Et d'autant plus que depuis Daesh, depuis 2014-2015, on a atteint des plateaux. On a suffisamment maintenant, malheureusement, d'activistes pour qu'eux-mêmes soient éventuellement des diffuseurs de cette idéologie. Tout ça, c'est une question de palier, en fait. Dans les années 90, il y en avait quelques dizaines. Au milieu des années 2000, au moment de la guerre en Irak, on était à quelques centaines. Et 10 ans plus tard, avec l'avènement de Daesh, on est à plusieurs milliers. Et donc, c'est ces tendances qu'il faut comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène sur la même période, sur ces trois décennies, il a aussi changé de nature. Et on est passé d'un phénomène djihadiste qui était au début des années 90 essentiellement porté par des individus qui revenaient d'Afghanistan, qui étaient d'ailleurs pas du tout perçus comme des terroristes. On était avant le 11 septembre, c'était des individus qui avaient fait le djihad contre les soviets en pleine guerre froide au milieu des années 80. Et donc, ils avaient trouvé l'exil en Europe, d'ailleurs souvent en Angleterre. Et ils étaient plutôt perçus comme des exilés politiques qui avaient plutôt servi les intérêts de l'Occident parce qu'ils avaient lutté contre le RSS en Afghanistan. Désormais, après le 11 septembre, là, il y a un changement de regard et pour cause, certains de ces individus ont diffusé des thèses djihadistes parmi les populations européennes. Mais le changement, il intervient aussi parce que désormais, ce sera des Européens qui vont porter la chose. Et ça, de ce point de vue-là, le 11 septembre, puis la guerre en Irak, va créer un mouvement d'européanisation, en fait. Des premiers réseaux, qui à l'époque, c'est des toutes petites cellules, mais qui vont être actives et qui vont en fait, dans certains cas, réussir à créer des groupes plus larges.
Et est-ce que ça veut dire qu'il y a une mauvaise intégration des musulmans en France? Parce qu'en fait, on va aller évidemment sur ces discours de l'extrême droite, du grand remplacement. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi l'extrême droite, et ça peut sembler un peu étrange ce que je vais dire, mais pourquoi l'extrême droite et les djihadistes, ils ont finalement des intérêts communs, quelque part.
Ouais, alors il y a plein de questions et je pense que la meilleure manière pour moi de les aborder c'est déjà de reprendre ce petit travail si tu veux de c'est un peu besogneux mais où on va casser toutes les coquilles qui enferment le débat public indispensable. Donc là, j'ai évoqué un des aspects qui était de ne pas comprendre qu'en fait ce phénomène désormais est endogène à l'Europe. On en verra les implications tout à l'heure. L'autre aspect qui convient de comprendre, c'est que le développement du djihadisme a des causes multiples. Et là, on fait face à, encore une fois, à pas mal d'écueils dans le débat public. L'un des réflexes les plus récurrents, c'est de dire finalement le djihadisme c'est le produit de la marginalisation. C'est-à-dire, il y a de la marginalisation économique, de la marginalisation politique ou culturelle ou raciale ou religieuse. Et donc, des individus, face à ce qu'ils considèrent comme une injustice, ont besoin de se rebeller. Et le djihadisme leur offre soit le moyen, soit le prétexte. La réalité, c'est que les facteurs de marginalisation de toute nature jouent un rôle, mais n'explique en rien à elle seule le phénomène. Et là, si on retourne à notre géographie, on peut reprendre ces 7 pays que j'évoquais qui ont fourni 90% des départs de Daesh. Et on avait donc, on a dit à l'instant qu'il y avait un phénomène de concentration dans ces 7 pays. Mais en fait, ce phénomène de concentration, il s'observe à tous les niveaux dans chacun de ces pays. C'est-à-dire, si on reprend ces 7 pays, dans chacun de ces pays, on va voir qu'il y a certaines zones qui sont très touchées par les départs et d'autres pas du tout. Donc, on a une vingtaine de zones en France qui sont très touchées, qui concentrent la quasi-totalité des départs, une quinzaine en Angleterre, quinzaine en Allemagne, à peu près une demi-douzaine en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, etc., etc. Et dans chacune de ces zones concernées, donc ces villes, on va voir encore une fois un phénomène qui va se concentrer dans certains quartiers. Et si on zoome encore plus, on va voir que c'est un certain environnement. Et ça, c'était ce que j'avais mis en avant dans mon premier livre qui s'appelait Le djihadisme français pour la France. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, ce cadre, c'est un cadre général qui vaut non seulement pour les différents pays européens, mais à vrai dire, si on se réfère à une thèse qui vient d'être défendue à l'université d'Oxford par un certain Nate Rosenblatt, qui est aussi à Princeton, on observe le même constat aussi au Moyen-Orient. Dit autrement, on serait face à un mode de diffusion quasiment universel du djihadisme, c'est-à-dire dans des microcosmes, dans certains endroits, par diffusion idéologique à partir d'un certain nombre d'acteurs. Et donc là, on voit bien qu'une fois qu'on arrive sur ces zones, ce qui devient important, c'est aussi la dimension militante. Et celle-là, elle est totalement oubliée du débat public, c'est-à-dire qui sont les djihadistes, qu'est-ce qu'ils font localement, et quand est-ce qu'ils sont arrivés, et à quel moment. Et donc en fait, on a une géographie à laquelle il faut rattacher une histoire et il faut donc remonter dans le temps pour essayer de comprendre pourquoi une ville, c'est l'exemple que j'avais souvent pris il y a 2 ans au moment de la sortie de mon livre, pourquoi une ville comme Trappes a été énormément touchée par les départs et 80, enfin un peu moins, autour de 65 départs selon les chiffres officiels entre 2012 et 2018 pour la Syrie, alors que Chanteloup-les-Vignes, séparé par un bras de Seine qui est en tout point comparable au niveau socio-éco, violence, délinquance, taux de chômage, etc., population, démographie, il y en a zéro. Et en fait, cette différence entre Trappes et Chanteloup-les-Vignes, on la retrouve quasiment dans tous les pays européens, dans les mêmes termes. Donc, et à chaque fois, l'élément qui distingue une ville ou l'autre, c'est la présence d'acteurs djihadistes qui ont essaimé en visant explicitement les populations musulmanes Et ils se sont installés dans ces villes soit par un peu par hasard, enfin parce qu'ils avaient des liens éventuels avec, sur place, soit parce qu'ils l'avaient particulièrement ciblé, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait la présence d'autres mouvements islamistes, que ce soit des mouvances proches des frères musulmans, des salafistes, d'établir. Et ça, cette géographie-là, généralement, on l'a pas en tête. Alors que parmi les djihadistes que j'ai rencontrés en détention, eux, ils étaient très clairs. Ils disaient, bah, dans tel quartier, c'est plutôt telle mouvance, donc on y va, on approche différemment ce quartier-là de tel autre, etc. Et une fois qu'on a ça en tête, ben, c'est comme ça qu'on arrive à mieux comprendre, par exemple, qu'une ville comme Ulm, dans le sud de l'Allemagne, une région qui n'est pas du tout pauvre, hein, c'est ce qu'on appelle la tech belt, c'est vraiment, c'est, on va dire, plutôt une zone dynamique économiquement, où il n'y a pas d'histoire de marginalisation, de violence envers les communautés musulmanes locales, où le taux de chômage est pas mauvais. Enfin, c'est pas du tout Molenbeek, quoi. Il y a pas de problème notoire à Ulm, et pourtant c'est la ville de la première cellule djihadiste allemande, composée à 100% d'Allemands, qui va voir le jour autour de 2003-2004, qui s'appelle le groupe de Sauerland, du nom des plateaux dans lesquels ils s'entraînaient pour le djihad en Irak et en Afghanistan. Et donc c'est très intéressant d'avoir Ulm en tête, mais aussi d'avoir Anvers en Belgique, qui est la ville la plus riche de Belgique, où il y a eu beaucoup de départs pour la Syrie et l'Irak, par opposition, par exemple, à la Wallonie, ces régions francophones désindustrialisées, très touchées par le chômage, où comparativement à Anvers, il y a très peu de départs. Et donc, il faut se s'outiller, en fait, d'autres éléments explicatifs. Dire ça revient pas à exclure la dimension économique, sociale, culturelle, religieuse. Au contraire, ça revient à la combiner avec d'autres. Mais par contre, il faut aller dans cette subtilité-là au risque de ne plus rien comprendre, en fait.
Et quand je disais tout à l'heure, alors, que l'extrême droite et les djihadistes avaient des intérêts communs, est-ce que tu peux nous expliquer ça rapidement?
Merci de l'avance.
Non, mais j'y tiens parce que c'est important de comprendre la logique qui est identique. Et en particulier que finalement, c'est les musulmans qui payent le plus cher de leur vie.
C'est hyper important de comprendre que à partir du moment où les djihadistes sont européens, ils savent se positionner dans un débat public qui est européen. Et ils en comprennent les tenants et les aboutissants. Et ils sont pas tous en capacité de disserter sur la politique intérieure de l'Allemagne ou du Danemark. Mais par contre, il y a toujours parmi eux des individus qui sont outillés pour comprendre. Et tout simplement parce qu'ils sont, encore une fois, totalement européens et donc totalement socialisés dans ces univers mentaux, politiques, etc., européens. Et donc, ils savent se positionner dans le débat public. Et d'une manière générale, ils bénéficient un peu de deux approches caricaturales de leur situation. Il y a l'approche de l'extrême droite, communément diffuse d'ailleurs, pas qu'en France, qu'on va retrouver encore une fois dans toutes les extrêmes droites européennes, qui en gros considère que le problème, c'est l'immigration musulmane et que finalement, les djihadistes sont tout simplement les dignes représentants de ce qu'ils considèrent être l'islam, c'est-à-dire des gens ultra-violents qui prônent la destruction de l'Occident, etc. Et donc pour eux, ils vont en fait tomber dans le piège que tendent les djihadistes à l'Europe, de manière générale aux démocraties, c'est-à-dire de se prétendre les dignes représentants de l'islam et de dire « regardez, nous ce qu'on fait, c'est l'application juste de la loi religieuse ». Et en fait, on l'entend très bien dans le propos d'un candidat comme Zemmour, par exemple. Pour lui, le djihadiste, c'est le bon représentant de l'islam. Il l'a dit plusieurs reprises. Il va dire, pour moi, c'est ça l'islam. Et en fait, il tombe dans le piège parce que, on parle de 6 000 djihadistes en Europe, probablement plus si on compte les sympathisants, etc. Mais à l'échelle d'une population de plusieurs millions de musulmans, rien qu'en France, on est entre 4 et 6. Donc, c'est totalement absurde d'utiliser les revendications d'un groupe ultra-radical qui se prétend représenter une religion d'1,5 milliard de fidèles sur Terre et de leur donner ce crédit-là. Enfin, en tout cas, de faire comme si ça s'imposait dans le débat public. Et donc, en fait, en faisant ça, l'extrême droite, alors de bonne foi ou de mauvaise foi, mais donne un effet de levier considérable à ces individus en leur reconnaissant la prétention à incarner l'islam. Et donc, du coup, ils avalisent ce que font les djihadistes pour se justifier, c'est-à-dire de dérober tout un tas de symboles qui sont pas les symboles des djihadistes, qui sont les symboles de l'islam. Mmh. On le voit très bien, le drapeau de Daesh, par exemple, c'est le sceau du prophète. Le sceau du prophète, ça appartient pas aux djihadistes. Et pourtant, si vous mettez le drapeau noir avec le sceau du prophète dessus, à n'importe qui dans la rue, comme ça, pris au hasard, ils vont dire c'est un drapeau djihadiste. Et ils auront raison, puisque c'est Daesh qui le met en avant. Mais il n'empêche que c'est un détournement d'un symbole commun à l'ensemble des fidèles musulmans par une organisation extrêmement radicale. Et ça, si on avalise ce genre de choses, et on a tendance à le faire, mais l'extrême droite, elle, sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, pousse à fond dans ce sens-là, en fait, on arrive à perdre absolument toute nuance et à donner un pouvoir que les djihadistes sans ça n'auraient pas forcément. Ça, ça me semble être un des premiers problèmes, c'est finalement de tomber dans cette logique identitaire qui est portée par l'extrême droite, entre autres. Après, il y a un autre écueil qui consiste à ne, pour les raisons inverses, c'est-à-dire souvent pour des questions de plutôt qui partent de plutôt de principes bienveillants. Enfin, c'est pour ne pas faire d'amalgame, pour au contraire éviter la stigmatisation, qui consiste à ne pas voir la réalité djihadiste, et notamment qu'il y a en France, en Europe, dans le monde musulman, des groupes islamistes, que ça existe, qui sont constitués, qui ont une pensée, qui ont une idéologie, qui ont des stratégies, etc. Et sous prétexte finalement d'éviter de faire du tort aux musulmans à parler de sujets qui sont crispants et qui hystérisent le débat public, on finit par ne pas en parler du tout et par ne pas voir en fait que ces individus non seulement sont actifs, mais du coup produisent des effets au sein de la population, au sein des communautés musulmanes européennes. Et typiquement, là je parlais de cette évolution sur les 30 dernières années, on se retrouve avec un problème avec des milliers de djihadistes européens au milieu des années 2010, parce que à un moment donné, il y a eu des activistes qui, sous nos yeux, j'ai presque envie de dire, dans un certain nombre de quartiers, au quotidien, organisaient des leçons, des cours, des séminaires religieux, etc., et qui n'étaient pas l'étude à proprement parler de l'islam, mais d'une interprétation extrêmement radicale et de diffusion des idées djihadistes. Et ça, si on ne s'en préoccupe pas, eh bien, on va se réveiller avec un problème. Et donc, en fait, les deux approches qu'on va retrouver un peu aux deux extrêmes de l'échiquier politique, là où elles convergent, c'est que dans les deux cas, l'une, finalement, ne voit que des djihadistes, et l'autre, à ne absolument pas les voir et à ne voir que des victimes qui se rebellent contre un système, finit par pas comprendre ce qu'ils font. Et dans les deux cas, en fait, on laisse les musulmans en pâture aux djihadistes, et en ne s'en préoccupant pas dans le deuxième cas, et en ne voyant que dans le deuxième cas, en fait, on finit par coincer tout le débat public, le verrouiller, et en fait, à parler des mauvaises choses. Mmh. Et donc, je pense que au milieu de cet étau, il y a une voie intermédiaire qui est délicate, parce que maintenant les enjeux sont tellement énormes au niveau politique, parce qu'il y a quand même une menace sécuritaire, enfin il y a des attentats régulièrement, etc., que on se retrouve finalement à devoir déblayer, et ça c'est le travail de la recherche, mais plus généralement j'ai envie de dire des citoyens hein, qui doivent s'emparer de ces éléments de compréhension pour réussir à se préoccuper de ce qui est une question de société qui appartient à tous les Français. Mmh. Et ça, il faut pas croire que le djihadisme c'est un sujet sur le côté, que parce que c'est compliqué ou parce qu'on a peur de s'en emparer, finalement il faudrait le laisser à d'autres. C'est une question de société comme une autre, c'est un énorme enjeu. Et pour moi, si on est capable de parler des grands enjeux de cette époque, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, ben on devrait être capable de se mobiliser aussi intellectuellement sur les questions comme le djihadisme et son avenir, quoi.
Et d'ailleurs, on a fait la même erreur sur le racisme et sur la gestion des colonies à l'époque. Il me semble, c'est que en fait, à ne pas vouloir en parler, ben, ça fait monter l'extrême droite, ça fait monter, voilà. Mais un truc que tu as dit et qui me semble important, c'est quelque part quand l'extrême droite parle du grand remplacement, enfin en tout cas Zemmour, mais bon, Le Pen est dans la lignée, voire même, et ça me fait encore plus peur, la droite classique qui commence à aborder des idées d'extrême droite, enfin pour moi en tout cas, pardon pour pour ceux qui votent à droite, en tout cas c'est comme ça que moi je l'envisage, en tout cas pour la candidate. Et en fait, en faisant ça, il renvoie, enfin quelque part, il renvoie ces musulmans, enfin ces personnes, vers le djihadisme, parce que le djihadisme, quelque part, ils disent, bah regardez, ils veulent pas de vous. Enfin, il y a aussi ce truc-là, non, quelque part.
Oui, ça c'est clair que en tout cas il y a de la propagande en face. Donc à chaque fois qu'il y a des âneries qui sont sorties, c'est utilisé. Ça c'est le grand argument des salafistes notamment, qui est de dire mais regardez, il faut désavouer cette démocratie qui vous rejette. Mmh. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Souvent, quand on parle de radicalisation, de salafistes, de djihadistes, on dit oui, il faudrait développer du contre-discours. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, le contre-discours, c'est eux qui le portent. C'est eux qui vont s'attaquer au discours républicain, au discours des valeurs dominantes dans les démocraties libérales européennes, en disant « Regardez, tout ça n'est qu'un mensonge ». Mais nous, on n'a pas à se définir par rapport à ce qu'explique Al-Qaïda ou Daesh de ce qu'est l'Europe. Ça, c'est, je veux dire, c'est comme si aujourd'hui, on se définissait, et évidemment, toutes choses égales par ailleurs, mais on prenait les justifications russes pour envahir l'Ukraine pour argent comptant en disant « Bah oui, regardez, Poutine a raison sur tout ». Non, c'est à un moment donné, il doit justifier ce qui est aux yeux de tous de l'ordre de l'injustifiable. Bon, les djihadistes vont se nourrir donc de ça, mais c'est à nous de nous déterminer, c'est à nous de comprendre ce qui se joue en France. Et ce qui m'inquiète, je veux dire presque en tant que citoyen sur la question du djihadisme, c'est qu'en fait, il y a très peu de réflexion publique. Il y a des anathèmes, il y a des grands discours, des slogans, donc le grand remplacement s'en est un. Et en fait, c'est des sortes de bulldozers qui érasent totalement le débat public, mais qui n'apportent aucun ni élément d'explication, ni possibilité de refaire société. Au contraire, ça divise. Et là, on le voit, la question, c'est aussi à un moment donné de comment on arrive à penser les sociétés européennes dans leur modernité, c'est-à-dire aussi avec une réalité qui est que désormais, l'islam est une religion européenne. Et en tout cas, c'est une religion qui s'inscrit en Europe et dont l'avenir, une partie de l'avenir s'inscrit en Europe. Et donc, si on n'arrive pas à s'approprier ces questions-là comme d'autres questions de société, eh bien, effectivement, on va toujours traiter ça à distance et on va mal le traiter. Et là, je crois qu'il y a une possibilité de se saisir de ce sujet. Et ça a été, on a parlé de la droite, mais il faut aussi voir que ça a été aussi provoqué, je pense, par une position à gauche qui a considéré, je parle au sens large, qui a eu tendance à considérer que parler de ces sujets, c'était mal, c'était faire monter l'extrême droite. Résultat des courses, on a mis un couvercle dessus, et puis à chaque fois que ça pète, l'extrême droite a un boulevard pour intervenir dessus dans le débat public. Et ça, c'est, je crois, que ce qui est plus possible de faire aujourd'hui, ce qui ne convient justement plus de faire, mais ça implique par ne pas laisser le monopole du débat public sur ces sujets à des forces qu'on considère être comme divisives. Ça, c'est, voilà, je pense que là, il y a un rééquilibrage à faire, et pour ça, il faut de la connaissance. Et ce que je vous dis, moi, je l'ai vécu dans la recherche aussi, à ma modeste échelle, mais j'ai eu des discussions avec des collègues, j'ai eu des discussions avec des professeurs, des aînés, qui m'expliquaient que traiter de ce sujet, c'était par définition problématique, parce que tôt ou tard, ça allait être récupéré. Mais je veux dire, il y a un moment donné, pour casser la machine à fantasmes, il faut objectiver la réalité, il faut produire des diagnostics, sinon on ne pourra pas se plaindre, quoi. Et donc, je pense que c'est là, j'ai l'impression que l'évolution se fait, mais par contre, c'est vrai qu'on a perdu du temps, en fait.
Et je rappelle, je l'ai déjà dit, mais la majorité des victimes des djihadistes, ça reste des musulmans, enfin, juste pour...
Dans le monde, ouais, dans le monde,
ouais. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de la Russie, bon, c'est l'actualité hyper chaude du moment, l'Ukraine, évidemment. On s'est beaucoup moqué sur les réseaux sociaux d'images qui disent que les djihadistes appellent à la paix entre la Russie et l'Occident. Est-ce que tu peux commenter ça, c'est-à-dire le lien entre la Russie, l'Iran, les djihadistes, etc. C'est aussi un point hyper intéressant. Je pense que par-delà les blagues, il y a une réalité derrière.
Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà la méthode. Les djihadistes, ils ont, notamment depuis Daesh, depuis l'avènement de Daesh, donc au milieu des années 2010, ils ont pour habitude de se saisir de l'actualité du moment, surtout celle qui fait le buzz et qui génère du contenu, notamment sur les réseaux sociaux, et ils s'en servent comme marchepied pour gagner en visibilité. Donc, typiquement, les premières méthodes qu'on avait vues autour de 2014-2015, c'était, on voyait des comptes pro-Daesh qui allaient tweeter sur les tendances sur Twitter. Ils allaient saisir des mots-clés qui faisaient le buzz, pour parler avec un anglicisme, et derrière ils s'inséraient sur ces fils, et derrière ils produisaient, ils diffusaient leur propagande. Bon, ça a été rapidement détecté par tout un tas d'algorithmes, mais ça a été quand même une réalité pendant longtemps. Là, c'est un peu la version à grande échelle, c'est-à-dire ils se saisissent de l'actualité international et d'un acte gravissime de guerre qui serait susceptible de totalement reléguer les questions djihadistes au 15e ou au 20e plan de l'actualité pour tout d'un coup s'insérer là-dedans et dire « Regardez, nous, on existe. » Et la preuve, on en parle aujourd'hui. Donc, ils réussissent d'une certaine manière à attirer l'attention. Donc, ça, c'est un point. L'autre élément que je voulais évoquer avec toi sur la base de cette question, et c'est ce que je développe dans le tract, c'est au cœur du tract, c'est de bien comprendre que le djihadisme a ses cycles, en fait. Il a des cycles, et ça, c'est ce qu'on a du mal, encore une fois, à comprendre, avec des marées hautes et des marées basses. Et ce que je montre, c'est que depuis 30 ans, il y a eu trois cycles, à chaque fois une décennie, dans les années 90, dans les années 2000 et dans les années 2010, et qu'à chaque fois, on a eu une marée haute. Donc la marée haute, c'est quand le djihadisme est visible, qu'il y a des attentats qui sont commis, qu'il y a des organisations comme Al-Qaïda ou plus tard Daesh qui vont l'incarner, qui vont gagner en visibilité en commettant des attentats comme le 11 septembre, comme la campagne de terreur entre 2015 et 2017 en Europe, etc. Bref, c'est ce que spontanément l'auditeur qui nous écoute considère être du djihadisme, c'est-à-dire des terroristes qui commettent des attentats, qui sont très visibles, qui ont une organisation, c'est des individus en kalachnikov, revendicatifs, etc. Ça, à la limite, ça pose pas trop de problèmes de compréhension. C'est assez clair, c'est assez explicite. Mais ce qu'il faut qu'on vient de comprendre, c'est que ces moments de pic, donc typiquement dans la première cycle, ça va être l'affirmation d'Al-Qaïda qui va conduire au 11 septembre. Dans la décennie 2000, ça va être toute la partie au milieu des années 2000, avec les attentats de Londres de 2005, de Madrid de 2004, et puis tout un tas de tentatives d'imposition d'un État islamique en Irak au même moment. Et puis, au milieu des années 2010, le pic, c'est Daesh qui se construit comme un califat et qui va califat entre guillemets, et qui va mener une campagne de terreur en Europe. Et à chaque fois, ces trois pics, ça s'est traduit par la formation de ce qu'ils appelaient un émirat islamique en Afghanistan qui accueillait Al-Qaïda dans les années 90, d'un État islamique d'Irak au milieu des années 2000 et d'un califat islamique en Irak et en Syrie qui était Daesh. Donc, à chaque fois, une entité, une enveloppe religieuse de plus en plus grande. Donc, un appétit, en fait, de plus en plus grand. À chaque fois, ils ont attiré de plus en plus de monde. Et les campagnes de terreur, donc inégales, mais ont toujours visé à un peu plus le cœur des démocraties occidentales. Et donc, dans tout ça, ce schéma-là, ça, on les voit bien, les pics. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est ce qui s'est passé entre ces deux pics, c'est-à-dire ce que moi, j'appelle la marée basse et ces phases de faiblesse. Eux-mêmes, d'ailleurs, pour théoriser, ils ont théorisé d'une certaine manière ces cycles à travers tout un tas d'idéologues dont ils s'inspirent, qui sont issus de la frange radicalisée des frères musulmans égyptiens, des frères Qotob notamment. Et c'est quelque chose, c'est comme ça que leur activisme aussi a été pensé à la base. C'est-à-dire, il y a des phases d'activisme visibles et puis des phases de reconfiguration, de recrutement dans les périodes où ils se considèrent être en infériorité dans le bras de fer qu'ils mènent contre ce qu'ils désignent comme l'ennemi. Et ça, ce que je montre, c'est que c'est là où tout se joue, en fait. C'est-à-dire que quand arrivent les pics, c'est presque déjà trop tard, puisque ça signifie qu'ils ont récupéré des capacités d'action. Et donc, en fait, nous, on a eu tendance, après le 11 septembre 2001, il y a une réaction américaine très forte qui s'appelle la guerre contre la terreur, qui va détruire, qui va renverser le gouvernement des talibans qui refusaient de livrer Al-Qaïda. Et donc, entre 2001 et 2003-2004, il y a une vraie baisse de la menace et de l'activisme djihadiste. Puis aussi, il y a le développement d'un arsenal juridique qui permet d'arrêter les relais d'Al-Qaïda en Europe, etc. Mais à partir de 2004, avec le djihad en Irak, il y a un regain et qui va se traduire par les attentats, les premiers attentats en Europe. Donc là, à nouveau, prise de conscience, ça va se traduire par la destruction de cet État islamique d'Irak à la fin des années 2000 et à nouveau une sorte de répit. À cette époque-là, fin des années 2000, début des années 2010, si on en croit la plupart des observateurs sur le sujet, le djihad global est vaincu. En plus, ça arrive au moment où, en 2011, Ben Laden est tué dans un raid américain. Anwar El Awlaki, qui était l'un des lieutenants principaux d'Al-Qaïda, un Américain yéménite, est tué, une frappe de drone au Yémen. Donc pareil, on dit, tiens, Al-Qaïda est quand même très, très affaibli. C'est au moment aussi des printemps arabes. qui sont ces révoltes pro-démocratiques dans le monde arabe, qui sont un peu l'antithèse finalement du projet djihadiste. Donc tout ça crée un enthousiasme et on dit bah finalement tout est terminé. Sauf que en parallèle se développe la crise syrienne et qu'un an plus tard on voit Al-Qaïda débarquer en Syrie et puis deux ans plus tard une sorte de projet qui va émerger, tout ça qui est Daesh, et avec là une nouvelle vague qui cette fois est beaucoup plus forte. Donc on n'avait pas compris à cette époque-là collectivement que c'était pas du tout la fin du djihad global, c'était une phase de reconfiguration. Et là, on le voit bien, depuis que Daesh s'est effondré sous sa forme territoriale au Levant, on est en train de reproduire les mêmes impensées. Moi, je suis à Princeton, aux États-Unis, je suis frappé de voir que le débat américain considère que le djihadisme s'est terminé, mais presque parfois dans les mêmes termes, utilisant les mêmes termes qu'il y a 10 ans, quand ils expliquaient que le djihad global était terminé. Et là, je pense notamment à la tribune... un long article de Fahed Zakaria, qui est vraiment un journaliste extrêmement réputé, d'ailleurs souvent passionnant, hein, aux États-Unis, rédacteur au Washington Post, figure un peu vedette de CNN, etc., qui écrit en avril dernier vraiment un long article expliquant voilà, le djihadisme finalement est en train de disparaître et on est sorti de cette phase qui s'était ouverte avec le 11 septembre 2001. La réalité, non. On peut détruire une organisation en Syrie et en Irak comme ça a été le cas avec Daesh. Et d'ailleurs, il en reste plein de morceaux, on pourra en parler, qui sont encore actifs. C'est pas pour autant qu'on détruit une idéologie. Et l'idéologie peut tout à fait continuer de se diffuser alors même que les groupes qui l'incarnaient sont en difficulté, comme c'est le cas d'Al-Qaïda ou Daesh. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux causes, et notamment aux causes de la diffusion du djihadisme en Europe, parce que désormais, c'est une réalité européenne. Et ça, c'est tout mon propos. Et donc là, c'est dans cette période-là de creux, au moment où justement on a tendance à se dire que finalement c'est terminé, qu'il faut au contraire redoubler d'intérêt pour comprendre ce qui joue dans les milieux djihadistes et pour comprendre comment eux, ils essayent de rebondir. Et ça, c'est, je crois que c'est insuffisamment fait et même insuffisamment compris, quoi, ce simple mode de fonctionnement du djihadisme. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer dans le tract.
Bien sûr. Non, c'est hyper bien fait d'ailleurs. Et donc là, on est à marée basse, si je reprends tes termes. On a une idée, enfin, du coup, puisque ces cycles, ça fait 30 ans qu'ils se mettent en place, on a une idée de quand ça va revenir à marée haute, entre guillemets.
C'est la question à un milliard, quoi. Mais.
Je te la pose.
c'est me donner bien trop d'importance. Non, je pense qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu... Ta question, elle me fait penser à une question qui avait été posée au chef de la rubrique technologie du Washington Post, justement. Et un de ses collègues journalistes lui disait, bah, toi qui es au courant de tout, c'est quoi les inventions de demain, les technologies qui vont révolutionner et lui il disait bah, avant de commencer par te dire ce que j'envisage être les inventions technologiques de demain, je pourrais commencer par disserter sur toutes les révolutions technologiques qui existent déjà, qui ont déjà été avalisées et dont on n'a pas conscience. Et j'avais remarqué cette formule comme étant assez amusante parce qu'en fait c'est un peu le cas. C'est avant même de prédire l'évolution de ces dynamiques en Europe et ailleurs, eh ben on peut déjà parler de ce qui se passe. Et là c'est vrai que le paysage, on est à marée basse, mais quand même il y a des soubresauts. Il y a déjà l'Afghanistan. C'est extrêmement important de comprendre l'importance de l'Afghanistan dans ce schéma général. L'Afghanistan, donc, comme les auditeurs et les auditrices le savent, a été pendant 20 ans occupé par les États-Unis, qui soutenaient un gouvernement qui était, on va dire, essayé de mettre en place des réformes institutionnelles qui allaient dans le sens d'une démocratisation du pays. En tout cas, c'était comme ça que c'était vendu, mais surtout les États-Unis portaient à bout de bras, à coups de milliards de dollars, une armée qui était censé résister contre les talibans. Et en fait, ils avaient un calendrier de retrait qui se terminait au 31 août. Et avant même le retrait officiel des États-Unis, les talibans avaient repris le pouvoir à Kaboul avec une armée afghane qui, dans la plupart du temps, n'avait pas combattu. Et pas parce qu'ils étaient particulièrement lâches, comme je l'ai entendu dans le débat public de façon un peu honteuse, mais parce qu'à un moment donné, ils étaient dans une situation où ils étaient sourds et aveugles face à un ennemi qui avançait et ils n'avaient même plus les moyens de se battre avec des officiers qui faisaient défection partout. Et donc, je veux dire, sur le terrain, le rapport de force était plus tenable. Et donc, dans cette logique-là, le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, ça a été un énorme message envoyé dans toute la galaxie islamiste, mais particulièrement entendu par les djihadistes, qui consiste à dire, bah, vous voyez, On a fait le dos rond pendant 20 ans face à la plus grande armée du monde qui, finalement, n'a pas réussi à construire l'État. C'était toute la stratégie de state building qui était proposée par les États-Unis. Et ils disent, bah, en fait, nous, on a fait du state building. On a construit nos réseaux au sein de la population afghane, au sein des tribus, et on a attendu notre heure. Et puis en fait, l'édifice américain s'est écroulé comme un château de cartes parce que nous, on avait mieux construit. On avait pris en compte la dimension tribale, on avait pris en compte la dimension sociologique, religieuse, etc. Et puis, en fait, quelque part, ils avaient fait du terrain. Ils avaient fait de la sociologie et on a pu récupérer le pouvoir. Et après, qu'est-ce que va devenir l'Afghanistan aux mains des talibans? On voit déjà que le pays est en proie à la pire crise de son histoire, probablement une situation encore pire qu'à l'époque de post-guerre civile de 92. Donc, bon, voilà, à la limite, c'est les talibans, ça, ils s'en moquent puisque pour eux, l'important, c'est d'appliquer ce qui considère être la charia. Mais ça a été quand même un message qui a été assez passé, qui a été assez fort, parce que en creux, il souligne un échec américain, et puis il vient valider un peu une incompréhension des États-Unis de la région, qui considèrent qu'en fait, il fallait se retirer d'Afghanistan parce qu'il était temps. Et ça, c'était ce qu'on entendait dans les cercles américains. Moi, encore une fois, j'ai suivi ça de près aux États-Unis, et l'idée finalement, c'était de dire, bah, il est temps de faire la paix. Mais mon interrogation face à ça, c'est qu'il faut être deux pour faire la paix. Or, là, on était face à des talibans qui, eux, n'ont jamais renoncé ni à leur projet. Tout au plus, ils ont accepté que les États-Unis se retirent sans leur tirer dessus, quoi. Mais là, ça, c'est une situation qui est quand même, qui pour l'instant on n'est pas au retour de l'Afghanistan des années 90 qui hébergeait Al-Qaïda et Al-Qaïda qui programmait de frapper les États-Unis, mais on est au retour d'une situation qui peut être très problématique dans une région de crise où rien n'est réglé. Et les Américains sont juste retirés de cette situation en disant maintenant ça ne nous concerne plus, mais finalement il y a tout qui est prêt à repartir. Le deuxième aspect, c'est la situation dans le nord syrien. Là aussi, ça couvre un peu et il faut suivre de près cette situation parce que finalement, la guerre est terminée au sens où c'est le régime de Bachar al-Assad soutenu par les Russes qui a, sur le terrain militairement, fini par vaincre toute forme d'opposition. Mais on a dans le nord-est syrien une situation où on a l'Iran, la Russie, la Turquie, les forces de l'armée syrienne, les forces kurdes qui sont présents dans un espace de 300 km² avec aussi une présence de forces spéciales américaines, sur une situation qui est, par définition, non pérenne. Donc, il n'y a pas de règlement politique de la crise syrienne. Et on a une situation où, au milieu de ça, on a des camps avec des dizaines de milliers de femmes et d'enfants, comme le camp de Al-Hol, dans le nord syrien, ou le camp de Ar-Roj, où là, pareil, la situation n'est pas pérenne. Ce sont des gens qui ont rejoint Daesh, souvent qui ont eu des enfants sur place et qui sont tenus donc dans ces camps qui sont des espèces de gigantesques villes fermées mais à ciel ouvert. Pareil, situation non stable. Et au milieu de ça, il y a des prisons où là, il y a les hommes qui ont combattu pour Daesh, qui sont détenus dans des conditions souvent effroyables. Et on le voit, il y a eu une attaque très récemment, là en janvier, d'une de ces prisons par des groupes proches de Daesh qui sont en clandestinité dans cette région et qui, le fantasme, ça serait d'attaquer une prison pour libérer un maximum de combattants et de revenir en force. Et donc, on voit là, il y a encore une fois beaucoup de forces qui essayent de contrôler cette situation, mais tôt ou tard, il va falloir régler cette situation dans le nord-est syrien qui, pour l'instant, encore une fois, est un grand point d'interrogation. Et puis, il y a la question du Mali et plus largement de la situation djihadiste en Afrique subsaharienne avec désormais une gangrène, on le voit, de Boko Haram quasiment en Afrique de l'Ouest. Donc là aussi, il y a une grande situation d'instabilité qui, là encore, pose la question de d'un rebond ou d'un regain du djihadisme. Et donc, dans tout ça, désormais, il y a une guerre en Ukraine qui focalise l'attention de tout le monde. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout, si on est à marée basse, on n'est pas à l'étale basse. Voilà, on est plutôt là sur une marée. On ne sait pas encore si elle est totalement montante, si elle monte vite ou si elle monte doucement. Mmh. Mais en tout cas, il faut se préoccuper de ces enjeux qui sont liés à plein de contextes géopolitiques très, très instables et qui nécessitent d'avoir, je dirais, une vision en la matière qui est souvent absente des chancelleries occidentales parce que finalement, les ministères des Affaires étrangères européens ou américains ont beaucoup de mal encore à penser le non-étatique. C'est-à-dire une invasion russe, tout le monde comprend, parce qu'il y a des tanks russes qui rentrent en Ukraine. Mais l'évolution de groupes djihadistes dans une espèce de géopolitique mondiale, ça paraît tout de suite beaucoup plus abstrait. Or, pour ces acteurs-là, eux, tous les signes, ils les reçoivent et ils les interprètent.
En fait, je vais poser un jugement, mais ce que tu décris de ce qui s'est passé en Afghanistan avec les Américains, ça me fait penser un petit peu à une forme, ouais, sans doute, de post-colonialisme, c'est-à-dire tu arrives avec tes principes, tes idées, et tu ne t'intéresses pas au peuple local, et du coup, en fait, ça prend pas, et ça finit par être un échec, et du coup, quand tu t'en vas, bah, en fait, tu reviens à la situation... première. Alors, je ne sais pas si j'ai raison de penser ça comme ça, ça me fait un peu penser comme ça.
Alors, je ne suis pas spécialiste de l'Afghanistan, mais ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais en revanche, ce qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est déjà de voir que ce qui s'est joué en Afghanistan s'est joué en plusieurs temps. En fait, jusqu'en 2004, donc rappelons les faits, le 11 septembre intervient et il a été causé par Al-Qaïda, dont le commandement, c'est-à-dire Ben Laden, son bras droit, Zawahiri, étaient les protégés du Mollah Omar, qui était le chef des talibans en Afghanistan. Et le Mollah Omar refuse de livrer le commandement d'Al-Qaïda aux Américains qui demandent ça en réparation, enfin pour répondre à l'attaque meurtrière sur Manhattan, sur Washington et sur le Capitole. Enfin, et là-dedans... Donc, ce refus taliban entraîne l'intervention de la coalition menée par les États-Unis sous mandat des Nations Unies. Donc là, c'est dans le cadre du droit international que cette opération est décidée et va entraîner le renversement du régime des talibans. Et en fait, entre 2001 et 2004, il n'est pas question de transformer l'Afghanistan en une démocratie locale. Au début, c'est juste de contrôler une situation militairement sur le terrain et de préparer un retrait. Et à partir de 2004, la doctrine change, et elle change parce qu'entre-temps, il y a eu une invasion en Irak sans mandat des Nations Unies, qui là répond en fait à des intérêts notamment idéologiques, évidemment politiques, économiques, mais idéologiques des faucons qui étaient au pouvoir à Washington à ce moment-là et qui considéraient que finalement, il fallait utiliser la ressource ou la rente produite par le 11 septembre dans la guerre contre la terreur pour avancer de façon décisive ce qui était perçu comme l'intérêt américain, c'est-à-dire de mettre en place une démocratie à la place de l'Irak. Et en fait, ça va entraîner la destruction d'un pays et puis une guerre civile qui va se doubler d'une guerre conventionnelle, d'une guerre confessionnelle dont on ne sort pas aujourd'hui, dont on continue de payer le tribut. Et au milieu de tout ça, ça va amener un changement de doctrine en Afghanistan aussi à partir de 2004 où finalement la coalition va commencer à dire il faut faire faut construire une démocratie, il faut construire un État afghan qui réponde en fait un peu à tous les standards d'un État moderne. Et c'est extrêmement compliqué de faire ça parce que d'une, l'Afghanistan est un pays immense qui est dominé finalement par des montagnes. On est dans le Hindou Kosh, quoi. On est à la frontière ouest, si vous voulez, de l'Himalaya. Qui dit montagne et haute altitude dit en fait historiquement plein de tribus différentes. Alors je vais pas m'inventer spécialiste de l'Afghanistan, mais des réalités tribales, politiques et confessionnelles différentes, évidemment linguistiques, ethno-religieuses, etc. Et donc au milieu de tout ça, on peut pas en 15 ans, 20 ans, par le haut, à coups de dollars, construire un pays qui lui-même répond à des dynamiques qui sont millénaires, du moins centenaires. Et c'est ça un peu l'échec, c'est à partir de ce virage de 2004 va en fait créer une situation qui va être intenable. Et les États-Unis vont rater plusieurs occasions de se retirer, notamment en 2011 où ils avaient là une porte de sortie. Et en fait, en 2021, la décision avait été prise par Trump. Biden l'a avalisé, mais ce qui est frappant, c'est que ce retrait total n'avait à aucun moment donné été envisagé comme pouvant engendrer une chute du régime afghan. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, à l'inverse par exemple de la Syrie, où Trump avait annoncé un retrait total avant de se raviser sous la pression du chef du Pentagone à l'époque, qui lui a dit « si on se retire, la situation va devenir totalement hors de contrôle », et donc ils ont fini par maintenir des forces spéciales. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la simple présence de plusieurs centaines de forces spéciales américaines dans cet endroit permet d'avoir, de maintenir un rapport de force qui fait que la situation ne devient pas totalement hors de contrôle pour les Occidentaux, même si j'ai rappelé la gravité de la situation en Syrie et en Irak en ce moment. Mais ça, ça n'a même pas été envisagé en Afghanistan. Et en fait, on le voit, à partir du moment où les Américains se sont retirés et ils offraient plus de couverture aérienne, etc., bah, finalement, l'armée afghane pouvait plus se battre. Et d'autant plus que les officiers faisaient défection, quoi.
La réponse en France, ce que tu dis, c'est que donc on est à marée basse, mais plus ou moins. La réponse en France, elle est hyper sécuritaire. Enfin, tu vois, les discours sont hyper sécuritaires. La sécurité prend une place monumentale dans le débat public. Est-ce que c'est une bonne raison, une bonne réponse, pardon, ou est-ce que c'est une réponse encore, encore une fois, un peu à côté de la plaque?
Je dirais pas forcément à côté de la plaque. En revanche, ce qu'on peut déplorer, c'est que à considérer le djihadiste comme simplement une menace sécuritaire, et donc à répondre qu'à travers le développement d'une législation antiterroriste et avec des mesures finalement de développement d'un arsenal judiciaire uniquement et policier. On en finit par ne pas du tout comprendre la dimension sur laquelle moi j'insiste et qui me semble primordiale, qui est la dimension politique et sociétale. Pour le dire différemment, on considère encore que le djihadiste c'est du terrorisme, et uniquement ça. Mon propos, c'est de dire que le djihadiste ne se limite pas à des attentats. À vrai dire, les attentats, c'est une conséquence du djihadisme et de la présence de djihadistes. C'est la matérialisation, on va dire, ultime du fait qu'il y a du djihadisme, qu'il y a la présence d'acteurs djihadistes. Et donc, si on n'utilise que les attentats comme, finalement, le jalon auquel, à partir duquel on juge de l'activisme, on se plante. Parce qu'encore une fois, le terroriste, c'est l'arme qu'ils utilisent ou la méthode qu'ils vont utiliser à marée haute quand ils se sentent en capacité d'agir. C'est pas du tout... il existe un djihadisme entre deux attentats. Et c'est ça qu'il convient de comprendre. Et là, on va s'intéresser, si on considère que le djihadisme, ce n'est pas que des attentats, mais c'est une idéologie avec des militants qui sont actifs, qui formulent des propos à la fois politiques, religieux, qui proposent finalement une vision du monde, qui essaie de diffuser une utopie religieuse, qui répond, qui utilise, qui exploite un certain nombre de sources religieuses, qui vont construire un imaginaire autour de valeurs qui sont des valeurs très importantes au cœur de l'islam et qui vont les détourner pour servir leur récit, etc. Si on comprend que c'est ça aussi le djihadisme, eh bien on comprend que on va pas pouvoir régler le problème simplement avec des peines de prison ou simplement avec une nouvelle loi antiterroriste. Il y a toute cette dimension sociétale. Je crois que je l'avais évoqué dans notre précédent échange quand j'avais vu un recruteur qui était de région parisienne. J'avais dit, mais finalement, c'est quoi recruter pour Daesh? Enfin, c'est accusation par la justice de recrutement, mais en fait, tu faisais quoi concrètement? Et lui m'avait dit, bah, tu vois, un travailleur social dans les quartiers, un éducateur, etc., bah, moi, je fais la même chose, mais à l'inverse. Et donc, ce qu'il disait, c'est que finalement, il avait une présence sur le terrain, si j'ose dire, qu'il allait créer des liens avec des individus et que finalement, le processus allait se faire presque naturellement par un contact humain, par une compréhension de quelle est la problématique de l'individu et puis progressivement l'insérer dans un discours, dans un réseau, dans une vision du monde où après l'issue djihadiste, le soutien au groupe djihadiste en Syrie, la nécessité soit de frapper la France, en tout cas de soutenir et de justifier les attaques contre la France, va prendre sens spontanément. Et donc on voit bien la nécessité, là c'est... encore une fois, à l'échelle d'une démocratie comme la France qui fait 67 millions d'habitants, avec des ressources énormes pour intervenir dans un certain nombre de quartiers par autre chose simplement que le répressif, là on a un boulevard. Mais c'est très important de le comprendre et c'est ce qui amène à toute la discussion autour du séparatisme en fait. Est-ce que c'est bien nommé, est-ce que c'est mal nommé, c'est pas à moi de le trancher, mais ce qui est intéressant, c'est que là, pour la première fois, on a eu finalement une tentative du politique, justement, d'agir en amont, sur l'amont du djihadisme, et notamment à travers des associations comme Baraka City et d'autres, dont les fondateurs avaient tenu des propos explicitement djihadistes, et où il y avait là, à un moment donné, possibilité d'agir sur des discours qui vont légitimer. Et ça, la difficulté, c'est où est-ce qu'on met la barrière, et c'est un chemin qui doit pas être emprunté, je pense, par n'importe qui. Il faut être extrêmement responsable. Mais en même temps, ça ouvre la possibilité justement d'agir sur l'amont. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne peut pas être que ça. C'est la dimension sociale, économique et la dimension donc plutôt sociétale, elle est aussi très importante. Et le volet sociétal, social, économique de ce plan de lutte contre le séparatisme, il est beaucoup plus faible, quoi. Et donc, il faut aussi, encore une fois, pouvoir agir sur ça, parce que sinon, on ne va aborder qu'un bout du phénomène. Donc, je suis le premier à dire que la dimension socio-économique seule n'explique pas le djihadisme, mais je dis aussi qu'elle est importante et que si elle n'est pas traitée, on ne va pas pouvoir répondre durablement. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Après, on n'est qu'au début de toutes ces réflexions. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les démocraties, quand même, et on le voit encore une fois de façon différente avec la guerre en Ukraine, que les démocraties libérales arrivent à penser les enjeux, arrivent à penser les menaces avant qu'elles se manifestent. Et c'est pour ça que le djihadisme, c'est une réalité européenne. C'est un phénomène qui est, on l'a dit, qui désormais est endogène dans le sens où il est porté par des Européens. Donc, ce n'est pas par des expulsions qu'on va régler quoi que ce soit. Mais il faut le penser dans sa subtilité. Et il faut pouvoir agir avec plein de leviers. Mais faut être capable d'avoir un débat public de qualité sur le sujet. Et pour l'instant, il est quand même pas de très bonne qualité.
Il est de très mauvaise qualité. C'est moins qu'on puisse dire. Mais en fait, si je résume, parce que ce que tu dis, c'est qu'il y a énormément de leviers. Mais quelque part, ce qui peut sembler un peu étrange quand on t'écoute, c'est de se dire, en fait, on connaît les personnes. Tu vois, les djihadistes, en tout cas, les prédicteurs, enfin, les gens qui recrutent. Alors, il y a aussi le rôle des prisons dont on n'a pas parlé, mais on connaît les gens qui recrutent, on connaît les gens, on sait où ils sont. Et pourquoi, en fait, finalement, on va pas s'attaquer, entre guillemets, à eux en les empêchant de nuire, finalement, pour réduire, et tout en intégrant, évidemment, et ça c'est tout le sujet, mais tout en intégrant bien les personnes de profession musulmane à l'intérieur du pays, finalement. C'est un peu
parce que déjà, c'est des enjeux qui sont extrêmement complexes. Pour une manière de répondre à ta question, ça, on va faire un détour, on va passer par l'Angleterre. J'en parle pas mal dans le tract. L'Angleterre, dans les années 90, c'est un peu la manifestation archétypique de tout ce qu'il fallait pas faire. Je veux pas accabler les Britanniques, mais je veux dire, c'est des conversations que j'ai eues en Angleterre avec tout un tas de responsables, avec des anciens djihadistes, avec des islamistes qui sont, comme on dit maintenant, réformés, qui m'ont expliqué comment ils agissaient dans les années 90, etc. Et donc tout ça, c'est des entretiens très très récents. Et même les autorités britanniques désormais le reconnaissent. La situation à Londres dans les années 90, qui était surnommée le Londonistan, parce qu'il accueillait en fait tous les idéologues djihadistes qui étaient passés par l'Afghanistan et Peshawar et qui étaient en exil. Enfin, ils se retrouvaient à Londres et ils avaient créé un petit écosystème. Ils avaient mis la main sur des mosquées. Enfin, c'était vraiment totalement débridé, quoi. Ils avaient accès à la mosquée de Finsbury Park, qui était l'une des plus grandes de Londres, avec un prêcheur qui s'appelait Abu Hamza al-Masri, qui était vraiment un prédicateur djihadiste, mais ultra violent, qui soutenait toutes les violences des djihadistes algériens pendant la guerre civile, qui justifiait le vol et les violences au nom du djihad un peu partout. Enfin, c'était quelqu'un de, voilà, une figure charismatique très, très influente, mais il y avait aussi Abu Qatada, qui est un palestino-jordanien, qui est un idéologue du djihad global, qui était une sorte d'ambassadeur d'Al-Qaïda à Londres à l'époque. Enfin voilà, il y avait un écosystème avec des dizaines de prédicateurs extrêmement connus de la mouvance qui était à l'époque à Londres. Et la logique britannique de l'époque, qui est un peu la version extrême, on a évolué depuis, mais qui permet de comprendre, c'était de dire oui, mais ils n'appellent pas aux attentats sur le sol britannique. Donc finalement, ils ne violent aucune loi. Nous, on les surveille, c'était le discours dominant. On les surveille, mais on peut pas inculper des gens qui ne violent aucune loi. Et encore heureux, ça s'appelle l'état de droit, et encore heureux qu'il y a des principes qui garantissent, qui préviennent l'arbitraire. Mais la réalité de ce qu'ils ne voyaient pas et de ce qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, c'est que ces individus diffusaient tous les éléments qui allaient justifier les passages à l'acte en Europe, qui se sont produits après le 11 septembre 2001, avec en plus des arguments mais extrêmement pervers, puisque ces individus se servaient de l'état de droit et se servaient d'un certain nombre de garanties qui existent, qui sont fondamentales en démocratie, qui étaient la liberté d'expression, etc., la tolérance, pour prêcher l'intolérance, pour prêcher finalement la haine des non-musulmans, la haine des musulmans qui pensent pas comme eux, la haine des homosexuels, des propos d'un misogynisme absolu, et tout ça au nom de la liberté d'expression. Et donc de ce point de vue-là, il y avait quand même un problème, c'était comment les démocraties pouvaient se protéger de ces discours-là, qui étaient perçus en fait avec beaucoup de mépris. C'était considéré dans les années 90, ces prédicateurs, il y a plein d'articles sur eux dans les années 90, les Abu Hamza, les Omar Bakri, etc., où ils étaient présentés comme des bouffons, quoi, comme des clowns. Alors que les gars avaient monté des associations qui étaient actives dans 15 villes. Pour Omar Bakri, il avait monté une association qui s'appelle Al-Muhajiroun, les immigrés en français, et qui avait des branches dans toute l'Angleterre, à Leicester, à Luton, à Manchester, à Liverpool, évidemment à Londres. Et ils avaient des réseaux de plusieurs centaines d'individus dont un certain nombre vont être impliqués dans plein d'attentats un peu partout en Europe et dans le monde par la suite. Donc les graines ont été plantées à ce moment-là. Et il va falloir attendre le 11 septembre et surtout les attentats de Londres de 2005 pour que les Britanniques commencent à se dire « mais en fait, tout ça, c'était à cause du Londonistan » et de mettre en place tout un outillage dans le cadre de la loi. Ils ne sont pas sortis, ce n'est pas devenu une dictature, l'Angleterre, loin de là, mais qui ont permis d'interdire un certain nombre d'associations, de fermer Al-Muhajiroun, de fermer les associations de ces prédicateurs qu'ils avaient montées légalement, hein, et de commencer à agir sur ça. Le problème, c'est qu'on le fait souvent trop tard. Et mon propos, c'est de dire que désormais, le fait qu'on ait passé un certain nombre de paliers et que désormais on ait un nombre substantiel de djihadistes en Europe, ça nécessite de s'en occuper et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut ouvrir la conversation, il ne faut pas la fermer, il ne faut pas avoir peur, mais il faut plus de débats, quoi. Il n'en faut pas moins. Moi, je ne suis pas un spécialiste des politiques publiques, donc je pense que je serais bien incapable de proposer des solutions concrètes qui permettraient de régler quoi que ce soit. Mais par contre, à ma modeste échelle, si je peux apporter des éléments d'explication, j'essaye de le faire, quoi.
Et en fait, c'est marrant parce que ce que tu disais sur la méthode des djihadistes versus la liberté d'expression, ça me faisait penser aux méthodes de l'extrême droite qui utilisent exactement les mêmes, en fait. C'est hyper intéressant, en fait. Mais
ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu regardes le discours d'un Omar Bakri, donc qui est un prédicateur d'origine syrienne, qui était l'une des figures clés de ce fameux Londonistan dans les années 90, qui aujourd'hui est au Liban. Probablement en détention, en résidence surveillée au Liban. Il a été extradé en 2005. Lui, quand tu regardes son discours qu'il a tenu encore une fois publiquement, il ne s'est jamais caché. Il faisait une conférence publique à Wembley, dans l'arène légendaire de Wembley en 1994, dans laquelle il appelle ouvertement au djihad en Palestine, dans le Cachemire, en Bosnie, etc. Et où il développe tout un argumentaire qui est... c'est un brûlot contre les valeurs de la société britannique. Et il invite les journalistes à cet événement, etc. Donc le gars cherche la visibilité. Omar Bakri, si tu reprends son discours, en fait, t'es très très proche de ce qu'on appellerait un suprémacisme, je sais pas s'il faut dire un suprémacisme musulman ou un suprémacisme islamiste, mais vraiment, il développe l'idée que lui et les gens qui partagent ses idées sont intrinsèquement supérieurs à tous les autres. Que les autres sont des sourasses, quoi. Il y a vraiment un discours qui est d'une violence symbolique énorme face à tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et eux se définissent comme les seuls vrais musulmans. Et ce discours-là, on n'en voit pas le potentiel finalement perturbateur, alors qu'il est énorme. Et ce qui, moi, me surprend, c'est que parfois, on arrive très vite à comprendre les dangers que représentent les discours qu'on va dire suprémacistes, racistes, fascistes, etc. Ça, on en voit tout de suite le danger pour une démocratie. On voit quel est le problème au niveau politique, mais aussi au niveau tout simplement de... presque envie de dire du quotidien, quoi, de ce que... penser de telles choses produit de négatif pour l'ensemble de la société. Mais on a beaucoup plus de mal à aborder avec ces critères-là des idéologies qui, en fait, dans le fond, sont très proches, qui vont offrir une même grammaire et une même vision du monde absolutiste, suprémaciste, etc., mais dans un contexte et avec des termes qui vont emprunter plutôt... à l'idéologie islamiste et moins à la vulgate fasciste qu'on connaît en Europe, avec lesquelles en tout cas on est plus accoutumé. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on se dote des outils intellectuels pour comprendre ce qu'ils disent. Et si on ne le fait pas, on passe à côté. Ouais.
Et il y a une question aussi que je voulais te poser. Il y a eu, alors je sais pas si t'as suivi, parce que comme c'était aux États-Unis, mais il y a eu un documentaire Zone Interdite sur la ville de Roubaix. Et qui a amené beaucoup de, qui a jeté beaucoup d'huile sur le feu au final en France. Je sais pas si tu l'as vu. Si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce qu'on peut dire de cette ville de Roubaix?
Ouais, c'est un énorme sujet. Ce qui est très grave, c'est que ce documentaire a conduit à la condamnation à mort d'une journaliste et d'un des individus qui est interviewé dans le documentaire. Qui est accusé d'être un traître à l'islam parce qu'il a un prénom et un nom à consonance musulmane, et donc il a été accusé par des salafistes d'être un traître et donc un apostat en fait, et donc en tant que tel qui doit être exécuté. Donc c'est quand même déjà, je trouve, extrêmement problématique de ce que ça dit, surtout dans un contexte post Samuel Paty, post affaire Charlie Hebdo. Je veux dire, là on est, est-ce que faut se poser la question qu'en 2022 en France participation à un reportage, à un documentaire produisent de tels effets à de dramatiques, je crois. L'autre aspect, c'est que documentaire, chacun est libre de se faire son opinion. Je pense que M6 a produit des choses bien pires sur le sujet par le passé, c'est-à-dire qu'il y avait même, par certains aspects, j'ai trouvé que ça pouvait mélanger pas mal de choses et être un peu léger, mais globalement, c'était pas du tout un mauvais documentaire. Ce qui moi m'a retenu mon attention dans les réactions, et notamment les réactions sur les réseaux sociaux, c'était de voir à quel point en fait des individus allaient se confondre salafisme et musulmans. Je prends un exemple tout bête. Dans le reportage, on voit à un moment donné, dans le docu, pardon, on voit à un moment donné la mise en vente de poupées sans visage. Encore une fois, on peut en penser ce qu'on veut, mais les poupées sans visage, c'est vraiment, ça fait partie depuis une quinzaine d'années dans les milieux salafistes de ce genre d'objets qu'ils mettent en valeur en disant, bah, faut pas représenter les choses créées par Dieu et donc, faut pas représenter un visage humain et donc, voilà, on fait des poupées sans visage. On passe sur le développement d'un enfant qui a justement besoin de se figurer la chose, d'avoir un visage, d'avoir des sourires pour comprendre ce qu'est le rôle des émotions, etc. Mais n'entrons même pas dans un débat, je ne suis pas spécialiste de questions éducatives, mais déjà, je pense que là, il y a un sujet. Sur le fond, il n'y a aucun doute que des magasins qui vendent des poupées sans visage à Roubaix sont abondent dans la logique salafiste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qui, moi, m'a choqué, c'est qu'en ligne, les propos disaient, mais regardez, ils prennent des magasins qui vendent des poupées sans visage et en fait, ils le font, ils les mettent en avant, tout ça pour susciter le racisme et l'islamophobie. Mais non, enfin là, il faut bien distinguer deux choses. On peut critiquer des interprétations ultra-rigoristes d'une religion, surtout quand elles ont des effets sociaux, en l'occurrence, sans forcément condamner l'ensemble d'une religion et sans forcément mettre à l'index l'ensemble des fidèles de cette religion. Et ça, ce discours-là qui vise en fait à tout de suite taxer d'islamophobie tout discours critique sur ce qui est de l'ordre du critiquable, c'est-à-dire des interprétations rigoristes d'une religion, c'est pas normal. Ça devrait être totalement possible dans le débat public français et on voit qu'on se tend là-dessus, à l'heure actuelle. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut plus de débats et pas moins de débats. Et quand, moi, j'entends derrière des hommes et des femmes politiques, en l'occurrence, je pense à une femme politique qui explique que des poupées sans visage, pourquoi pas, après tout, sans voir ce que ça signifie vraiment. Alors, est-ce que c'est par bêtise, ignorance ou vraiment volonté de dissimuler une réalité? Je trouve ça problématique parce que les politiques devraient, au contraire, être extrêmement responsables sur ces sujets, sans quoi, encore une fois, il ne faudra pas ensuite venir crier, proposer des solutions à l'emporte-pièce parce que c'est maintenant que ça se joue, en fait. Et là, voilà, je pense que voilà de manière générale mon sentiment sur la ville de Roubaix. Bah, c'est une des villes dont j'évoque un peu l'évolution dans mon premier livre, qui est une ville qui a été très touchée par les départs en Syrie, notamment parce que il y a un certain nombre de quartiers de Roubaix qui ont été vraiment investis par des prédicateurs salafistes et qui ont transformé des quartiers qui sont extrêmement paupérisés par ailleurs, touchés par la désindustrialisation, etc., mais où le salafisme a pris et désormais constitue des petits écosystèmes. Alors, ça ne représente pas, encore une fois, tous ces quartiers, mais c'est une réalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la norme religieuse, il y a 20 ans à Roubaix, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Il y a eu une augmentation une normalisation du salafisme dans ces quartiers. Et ça aussi, c'est des sujets très délicats, mais qu'il faut pouvoir comprendre. Et d'ailleurs, quand on est sur place et qu'on pose la question aux habitants, aux élus, aux responsables religieux, aux responsables associatifs, etc., tous en parlent assez librement. Et c'est pas un tabou, je veux dire, sur place, oui, bah oui, il y a 20 ans, ça se passait comme ci, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu telle ou telle apparition, tel ou tel individu, et ça c'est encore une fois, il faut en comprendre l'importance, parce que c'est pas propre à Roubaix, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'ensemble de ces villes qui ont été touchées par les départs en Syrie, et donc c'est encore une fois un phénomène qui n'est pas stricto sensu français, mais qui est pan-européen à minima.
Parfait. Dernière question, naturellement. Ce podcast s'appelle VLAN, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ouvrir les portes du débat. On est en plus dans une période très bizarre, mais très paradoxale, mais de campagne électorale, donc je pense qu'il faut l'ouvrir en grand et la fermer.
Tu peux que ouvrir si tu veux. Hein.
La dernière fois, je crois que je l'avais ouverte en grand. Là, on ouvre les portes du débat et puis on va fermer. Je vais fermer ma bouche, quoi. C'est fini. C'est l'heure de la fermer. Voilà.
Merci beaucoup, Hugo.
Merci beaucoup, Greg.
Merci d'avoir écouté VLAN. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !